Bonjour à tous. Heureux de continuer la lecture que nous avons commencée de la lettre de Paul à l'église de Philippe. Merci. Qui est, comme la carte nous le rappelle, la première ville d'Europe où l'évangile est arrivé. L'apôtre Paul n'y est pas allé parce qu'il a réuni un comité et qu'ils ont décidé que c'était le moment d'aller en Europe. Acte 16 nous fait bien comprendre qu'il avait 36 projets sauf aller en Europe, mais que les portes se sont fermées ailleurs et qu'il est allé à Philippe. Une dizaine d'années plus tard, Paul est en prison à Rome et il écrit plusieurs lettres aux Colossiens, à Philémon, aux Éphésiens et la lettre aux Philippiens que nous avons commencé à lire. La dernière fois, nous avons lu les 11 premiers versets qui nous parlent en particulier de la joie débordante de l'apôtre Paul quand il pense à ses frères et sœurs. Et c'est un paragraphe que l'on a presque dans toutes les lettres de l'apôtre Paul. Il est reconnaissant pour tous ses frères et sœurs. Et l'enracinement profond de cette reconnaissance n'est pas dans la valeur exceptionnelle des gens que l'apôtre Paul croisait, mais dans sa confiance énorme en la grâce de Dieu et sa confiance en Dieu qui tient les uns et les autres. Et cela colore toute sa vision de la vie chrétienne et de la marche chrétienne de chacun et de tous ses amis pour qui il dit merci. Et toujours dans ces premiers versets, nous avions vu l'importance, la place fondamentale de la grâce chez l'apôtre Paul. Au début de ce culte, j'ai pensé à l'apôtre Paul et j'ai pensé qu'il chanterait probablement très volontiers chaque jour, à chaque heure, « Oh, j'ai besoin de toi ». Il a tellement enseigné que tout était par grâce. Et je pense que c'est un des chants que l'apôtre Paul chanterait avec bonheur s'il était parmi nous. Je continue la lecture ce matin au verset 12. L'apôtre Paul dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, parenthèse du lecteur, il est donc en prison, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis. Et je m'en réjouirai encore. Car je sais que tout cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais, que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous voyons dans ce texte d'aujourd'hui, entre autres, quatre points que j'ai repérés en le méditant. Paul devant la souffrance extérieure, Paul le prisonnier. Paul devant la triste réalité des souffrances en interne, les disputes. Nous voyons Paul nous montrer à quel point Christ est au centre dans sa vie et les implications concrètes dans sa gestion de ses priorités. Tout d'abord, Paul devant les épreuves. Le premier paragraphe nous rappelle la situation difficile de Paul, prisonnier. Je suis dans les liens, dans les chaînes, il est bloqué dans sa prison. Non seulement il est en prison, mais il a la douleur ajoutée d'être injustement traité. Il subit des privations, il a été plusieurs fois battu, sévèrement maltraité. Et devant ces épreuves, Paul ne les nie pas. Il ne dit pas, même pas mal. C'est pas du tout ce que Paul dit. Il ne dit pas non plus, je veux que vous sachiez que je supporte tout cela courageusement. Il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a en fait contribué au progrès de l'Évangile. Sa consolation, sa joie même, viennent de ce que Dieu permet de bon, et non pas des épreuves elles-mêmes. Paul est heureux en voyant la main de Dieu là où il peut la discerner. Et je rappelle ce qui nous tient à cœur, vous savez que nous le rappelons souvent, devant le terrible paragraphe des épreuves et des souffrances dans la vie, l'importance de l'honnêteté est ce que je commente à nouveau devant vous. L'apôtre Paul n'est pas heureux parce qu'il souffre, il est heureux parce qu'il discerne ce que Dieu permet de bon, et en particulier l'avancement de l'Évangile, même si il est dans une situation difficile. L'apôtre Paul, en regardant à ce que Dieu peut permettre de bon, est puissamment équipé pour supporter les épreuves qui lui tombent dessus. Deuxième paragraphe, les problèmes internes. Les disputes. Ce deuxième paragraphe nous amène, hélas, devant cette autre réalité de ce qui perturbe nos vies, ce qui est difficile à assumer, tellement présent dans nos vies, tellement présent en tout temps. On voit ça depuis le tout début de la vie de l'Église, dans le livre des Actes des Apôtres. Si vous prenez deux crayons de couleur et que vous mettez dans la marge des paragraphes où il est question d'épreuves extérieures, de persécutions, de maltraitances qui viennent des foules, et d'une autre couleur, vous notez toutes les épreuves liées à des problèmes internes, les disputes, les malentendus, les critiques, vous allez avoir une alternance jolie avec les couleurs, très douloureuse quant au fond. Quand ça se calme d'un côté, ça surgit de l'autre. Quand ça se calme là, ça ressurgit de l'autre. Une alternance très nette dans le livre des Actes des Apôtres entre épreuve externe, épreuve interne. Et qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul devant cet autre genre de peine, de souffrance, de problème? Eh bien, il me semble qu'il nous dit que son confort de vie passe après l'avancement du bien commun, et en particulier, à nouveau, l'annonce de l'Évangile. Il était dans les liens, mais il dit, je veux que vous sachiez que ça a contribué, en fait, à l'avancement de l'annonce de l'Évangile. Il y a des disputes, des choses qui peuvent faire très mal. Mais il dit, qu'importe, l'Évangile est annoncé. Étonnant tout de même ce qu'importe de la part de l'apôtre Paul, qui dénonce tant les disputes, les calomnies, les querelles dans beaucoup de ses lettres. Ça revient beaucoup parce que ça fait partie de la vie, hélas, des églises. Il dit entre autres aux Galates, « Si vous vous mordez, ça ne va pas aller. » Il parle à une église, il y avait des petits chiens, des gens qui savaient mordre. Donc l'apôtre Paul a tellement combattu tout cela qu'il ne peut pas dire « ce n'est pas grave ». Comment comprendre ce qu'importe ? L'apôtre a tant dénoncé tout cela. Il ne peut pas dire tout à coup « c'est la vie, on ne peut rien y faire, pas de problème avec ça, c'est pas grave, ce n'est que des problèmes internes ». Le qu'importe ne peut pas dire cela. En fait, il est clair. L'apôtre Paul s'explique et dit « l'évangile est annoncé ». Donc le qu'importe reflète la joie de celui qui voit l'œuvre de Dieu avancer, la persévérance de celui qui ne s'arrête pas devant les épreuves et les blessures, et il réussit à prendre de la hauteur et à voir que l'évangile est annoncé. Et il est heureux. Comme tout à l'heure, il y a 7 minutes. Pas parce qu'il y a des problèmes internes, et que ça change des problèmes externes. Il est heureux parce que l'évangile est annoncé. Son confort de vie, très malmené, passe après le bien commun, et en particulier l'annonce de l'évangile. Je pense que c'est comme cela qu'il nous faut entendre ce qu'importe, qui a surpris plus d'un lecteur, et qui nous fait comprendre à quel point l'apôtre Paul avait su dépasser des choses honnêtement tristes pour se concentrer sur ce qu'il apercevait de l'œuvre de Dieu et de l'évangile qui était annoncé. Troisième paragraphe. Car je sais que tout cela tournera à mon salut. Christ est ma vie. Christ est au centre de la vie de l'apôtre Paul. Avant cela, une ou deux remarques devant cette affirmation de Paul. Je sais que cela tournera à mon salut. L'apôtre Paul n'est pas sauvé ? Si. Il l'enseigne beaucoup et il le croit, c'est certain. Le salut est reçu par la foi, par grâce, par la foi en Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous offrir la justification et le salut. Mais l'apôtre Paul parle souvent du salut en deux temps, ce que nous avons déjà et tout ce qui reste. Et nous sommes quelquefois surpris, tellement nous avons compris que l'apôtre Paul enseigne le salut par la grâce, par la foi, reçu une fois pour toutes, que quand il nous parle du salut à venir, on peut être un peu perplexe. Mais c'est une réalité que nous n'avons pas tout le paquet cadeau du salut aujourd'hui, et que le plus beau est devant. Et puis, en regardant le contexte, vous savez que le mot « salut » peut aussi évoquer, dans le vocabulaire du Nouveau Testament, la délivrance. Et tout simplement, dans ce texte, l'apôtre Paul peut aussi parler de sa sortie de prison, il y croit, et de sa poursuite, et de la poursuite de son ministère. Oui, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, l'apôtre Paul sait que Dieu continue à le guider un pas après l'autre. Grâce à vos prières et à l'assistance de Jésus-Christ. Voilà une belle humilité du grand apôtre Paul qui sait qu'il dépend de la grâce. Des prières de ses frères et sœurs et de l'assistance du Saint-Esprit. Il ne se considère pas parmi ceux qui sont presque arrivés et qui ont réussi les étapes déterminantes dans la vie. Maintenant, c'est bon. Christ est ma vie, peut dire l'apôtre Paul. Voilà une expression toute simple que je nous invite à méditer longtemps dans les jours qui viennent. Christ est ma vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre. Ça veut dire que Christ est au centre. Ça ne veut pas dire que les petites choses ne comptent pas et qu'une maison que Dieu nous offre avec un beau jardin est à prendre sans aucune reconnaissance. Ça compte pas. Ce n'est que du matériel. Ça ne veut pas dire qu'une belle balade et qu'un fantastique voyage entre Grenoble et Sisteron, c'est du vécu, n'est pas l'occasion de dire un grand merci à Dieu tellement c'est beau. Et du bon poulet. C'est bon. Et du beau béton. Ah, c'est moins poétique. C'est beau. Je suis allé voir le béton de près. Et la grue, qui me rappelle mes vieux calculs il y a 35 ans. 37 millimètres. Ça peut être beau. La technique peut nous émouvoir. Revenons à la nature. De belles fleurs, un beau jardin. Tout cela, c'est beau. Mais cette expression de l'apôtre Paul, très connue, m'a réinvité à méditer que la vie, c'est pas ça. Christ est ma vie. La vie, c'est plus que la partie visible. C'est plus que les plus belles réalités terrestres. La vie, la vraie, la vie abondante que le bon berger veut pour ses brebis, c'est la vie en Christ. C'est la vie éternelle. Voilà de quoi méditer quant à ma conception de la vie et de ce qui compte vraiment. Il peut y avoir des moments de la vie où Dieu nous enlève des choses pour que nous méditions différemment que Christ est ma vie. Dans tous les cas, nous avons besoin de la puissance d'en haut, de l'assistance du Saint-Esprit. Et il est bon que nous soyons au bénéfice des prières des frères et sœurs pour que ce Christ est ma vie soit une bénédiction pour nous au milieu des différents chemins que nous pouvons connaître. Et justement, on arrive au quatrième paragraphe de notre texte du jour. Le Christ est ma vie correspond au discernement des choses principales. Il a même évoqué la mort. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On arrive dans du dur. L'éternité, la mort, tout ce qui reste quand tout a passé. Réflexion profonde, vitale, à la lumière de Jésus-Christ et de l'éternité. L'apôtre Paul discerne ce qui compte vraiment. Il réfléchit à la vie, il réfléchit à la mort. Je ne pense pas, avec beaucoup d'autres, que l'apôtre Paul soit ce qu'on pourrait appeler humainement, psychologiquement, médicalement, suicidaire. Je ne pense pas du tout dans ce texte-là. Il y a des moments où il avait vraiment hâte de fuir les problèmes. Mais là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Il ne dit pas qu'il en a marre d'être en prison, qu'il en a marre de prendre soin des églises, pas du tout. Il dit qu'il a hâte d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Non, je ne pense pas que l'apôtre Paul soit suicidaire, pas du tout. Mais je le vois habité par la conviction que le meilleur est devant. Et par la compréhension de la beauté, de la grandeur du salut, déjà révélé, mais pas complètement. Déjà reçu, mais pas complètement. Alors, l'apôtre Paul a cette attitude du disciple, pleinement confiant, qui dit ce que Dieu veut. Si c'est utile, je reste. Et le jour où il m'appellera, ce sera très beau. La mort reste une épreuve. Le même apôtre Paul écrit aux Corinthiens et parle de ce dernier ennemi qui sera vaincu. La mort est une épreuve. Ne faisons pas dire à l'apôtre Paul ce qu'il n'a pas dit. Mais être avec Dieu pour toujours, c'est merveilleux. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et je demande à Dieu que cela colore ma façon de vivre aujourd'hui, le 15 octobre. J'avais un trou sur la date, pas sur le mois quand même. Le 15 octobre 2017. Oui, je demande à Dieu que cela colore ma façon de vivre cette journée, avec le bonheur d'être avec vous, avec la tristesse de faire face à des choses qui nous font du mal aux uns et aux autres. Problème externe, problème interne. Mais je demande à Dieu que tout cela soit coloré par la certitude que le bon berger a des projets de bénédiction pour nous, qu'il veut le bonheur et que le mieux, le plus grand, est à venir. Conclusion, courage. Mettons Christ au centre. Courage, courage dans les épreuves, il y en a. L'apôtre Paul ne les cache pas. Il est merveilleusement aidé, instruit, conduit à prendre de la hauteur pour ne pas être noyé dans les épreuves. Mais il les vit et il les a subis, les 40 coups moins un, plusieurs fois dans sa vie. Il a été laissé comme mort pas loin de Lystre. Et ses ennemis ont pensé que c'était bon. Le lendemain, il était debout pour annoncer l'évangile. Les épreuves existent, courage. Que Dieu nous aide en bénéficiant, entre autres, de l'exemple de l'apôtre Paul, en étant au bénéfice de la parole de Dieu, de l'Esprit qui nous accompagne et des prières les uns des autres. Que Dieu nous aide à prendre de la hauteur pour vivre ces épreuves avec honnêteté, mais en n'ayant pas le nez dans le guidon des épreuves, en voyant ce que Dieu permet, qui correspond à l'avancement de son royaume dans mon cœur et dans la vie d'autres. Deuxième parole de conclusion, Christ au centre. Comme repère fondamental de ce qui compte vraiment, comme lumière importante de mes choix dans la vie. Nous avons constamment des choix à faire. Je reconnais que j'ai pris certaines décisions en étant assez peu à l'écoute de ce que voulait dire Christ au centre. Et je bénis Dieu pour les choix dans ma vie où il m'a aidé à être bien conscient que lui sait mieux que moi et qu'il nous faut nous en remettre à lui et que si on lui donne toute la place, nous trouverons toute la nôtre. Et que si on lui fait confiance, il veut vraiment nous bénir. Je voulais donner la parole à l'apôtre Paul, mais je ne le trouve plus. Le voici. Qu'importe, de toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen.